De l'Antarctique au Spitzberg, des Galapagos au Groenland, laissez-nous vous étonner. Réalisez vos rêves en embarquant avec Hurtigruten vers des contrées mythiques. Retrouvez le goût de l'aventure et de l'émerveillement face à une nature et une faune spectaculaires. Enrichissez vos connaissances aux côtés de nos experts et abandonnez-vous au confort chaleureux et informel d'un navire Hurtigruten. Réservez votre croisière pour 2023 avant le 30 juin sur hurtigruten.fr et économisez jusqu'à 500 euros par personne. Offre soumise à condition.
À voix nue. Cette semaine, Alexandre Breton rencontre Irène Théry. Ce soir, le cœur du mariage, c'est le couple.
Irène Théry, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors hier, nous sommes retrouvés dans une situation particulière, c'est que nous partons d'une situation où vous êtes sociologue du droit, formé de manière autodidacte, et puis on découvre hier que vous formez aussi à l'histoire, à l'anthropologie, donc vous décloisonnez les disciplines, vous élargissez votre éventail, disons, de savoir et de méthodes, de méthodologie. Comment ces deux dimensions chez vous, la sociologue du droit qui va être impliquée dans des enquêtes de terrain, dans ce que vous appeliez l'issier maintenant, et puis celle qui a un regard plus en perspective, avec ce regard en perspective offert par l'histoire et l'anthropologie, comment ces deux dimensions chez vous vont se réconcilier ou en tout cas se composer?
J'aimerais bien vous dire que c'est... Mais enfin, ça se réconcilie tout très bien. Et il suffit d'avancer théoriquement d'un côté et puis de rester dans ces enquêtes engagées de l'autre et l'un nourrit l'autre, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. Et quelquefois, justement, poursuivre un travail théorique et en même temps des enquêtes sur des sujets qui sont des sujets de société, qui vous mettent au cœur de l'actualité la plus brûlante, ça peut entraîner des malentendus, des difficultés. Autour, par exemple, de ce qui a été... à la fin des années 90, les débats autour du sida, autour du Pax, autour du mariage de même sexe, etc. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile pour moi de faire entendre que, tout en respectant tout à fait le discours militant, mon discours à moi était un autre discours. C'était une autre façon de lire la réalité sociale que lisaient les associations. Ça pouvait devenir complémentaire, mais il fallait travailler pour ça. Ça ne se faisait pas spontanément.
Très bien. Alors, qu'est-ce qui, justement, vous amène à travailler sur ces sujets?
Alors là, il y a encore une bifurcation. J'étais donc dans mes travaux de sociologue du droit, je travaillais dans les tribunaux. Et puis, il arrive un événement, c'est que mon mari tombe extrêmement malade. Il a ce qu'on appelle une endocardite, c'est une infection de la face interne du cœur, à Pâques 90. Il va rester de Pâques jusqu'à l'été, au service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat, d'abord dans la réanimation, où il est mourant pendant plusieurs semaines, et puis ensuite dans le service ordinaire des maladies infectieuses, quand il a été tiré d'affaire après une opération, etc. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que quand il a été finalement sauvé, on s'est retrouvé dans ce service, et dans ce service, à part lui, tout le monde avait le sida. Tout le monde avait le sida. Et donc, on est dans cette situation assez étrange, si vous voulez, où moi, je poussais dans un fauteuil roulant mon mari d'un mètre 80, 40 kilos, qui avait l'air d'être à la dernière extrémité. Je le poussais là parce qu'il allait vivre. Et nous, on avait traversé des semaines et des semaines d'angoisse avant, donc c'était derrière nous. Et que pouvait-on voir, en quelque sorte, de nous? Sinon que j'étais l'épouse d'un homme qui allait mourir du sida dans les prochaines semaines. Donc, une sorte de malentendu qu'on n'allait jamais lever, évidemment. Il y avait ça d'une part, et qui donnait un sentiment de proximité très grand avec les autres personnes. Et puis surtout le fait que, si vous voulez, dans ces services en 1990, mais c'était vraiment l'époque encore d'une homophobie, de stigmates pour les personnes séropositives qu'on n'imagine pas. Et donc, ça a été aussi une expérience humaine, on peut dire, que d'être, de vivre plusieurs semaines dans la proximité de ces personnes quelquefois qui allait mourir, qui était quelquefois abandonné de tous, qu'on prenait dans ses bras parce qu'il y avait personne, ou bien le compagnon qui venait un peu en cachette de la famille. Voilà. Donc je fais cette découverte en quelque sorte où par les circonstances, on va dire. Et peut-être un peu aussi cette sorte de culpabilité d'être là-dedans, les seuls qui étaient là avec un espoir. Quelque chose a été changé en moi, définitivement, et en particulier autour de l'idée que c'était vraiment injuste qu'on ne traite pas ces couples que je voyais, qu'on ne les traite pas comme on pouvait nous traiter, nous. Voilà. Et donc, pas immédiatement, mais quelques années après, quand... L'Agence nationale de recherche sur le sida a fait un appel aux chercheurs pour qu'ils s'investissent sur cette épidémie, en dehors des spécialistes de la maladie. Je me suis dit, mais c'est le moment de rendre quelque chose de ma dette, de tout ce que j'avais reçu, appris, de tout ce qui avait été transformé en moi. Ça avait créé un sentiment d'une dette, en tout cas. Et je me suis dit, il faut que je le fasse. Et j'ai bifurqué en proposant une enquête sur un sujet qui n'était pas du tout un sujet de droit. Silence, secret, confidence dans les relations entre les personnes séropositives et leurs proches. Et j'ai donc travaillé plusieurs années à cette enquête dans deux hôpitaux, l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, l'hôpital Brousset à Paris, en essayant de comprendre ce qui se passait entre les personnes séropositives et leurs proches, pourquoi elles se taisaient, pourquoi elles parlaient, etc. C'était une enquête qui était, je pense, celle qui m'a le plus marquée dans ma vie, celle qui a le plus marqué mon équipe aussi, et donc à l'issue de laquelle j'ai forcément été amenée à m'engager quand ont commencé les débats sur les droits des couples de même sexe. Il faut savoir que pendant que se déroulait cette enquête, la Cour de cassation, par deux fois, avait refusé de reconnaître comme un couple deux hommes qui vivent ensemble, en disant non. Des concubins, c'est des personnes qui pourraient se marier. Or, comme deux hommes ne peuvent pas se marier, eh bien, ils ne peuvent pas être concubins. C'était hallucinant. Enfin, donc, je me suis engagée autour de ces sujets à un moment où, donc, c'était avant le Pax, si vous voulez, les années où il y avait commencé à y avoir tout un ensemble de projets qui essayaient de donner, en fait, des droits à ces couples. Et c'est là que je dois rappeler, parce que c'est un peu ancien maintenant, que vous savez, quand on est au plus près du mouvement social, je l'ai déjà dit, premier jour où nous nous sommes vus à propos du féminisme, les mouvements sociaux, c'est a posteriori qu'on en fait une sorte d'unité. Mais quand on est dans la vie d'un mouvement social, il est très divisé. Et c'est logique, c'est logique. On a plusieurs façons de voir les choses, etc. Moi, je ne trouve jamais été choquée qu'il y ait des divisions internes dans les mouvements sociaux. C'est la loi du genre, on va dire. Et donc, dans ces débats qu'il y avait dans le mouvement LGBT, il y avait plusieurs façons d'aborder la question. Il y avait en particulier deux grandes façons, qu'on a oubliées maintenant. Mais il y avait toute une partie qui disait, bon, ils veulent pas nous accorder le statut de couple, contournons les choses. Et donc, des projets qui étaient des projets de contrats d'union civile, dans lesquels, finalement, on noyait ou on masquait la question du couple en disant... Faisons des contrats pour les amis, pour les frères et sœurs, pour les curés et leurs bonnes. Vous voyez, faisons un contrat d'union pour deux personnes, quelles qu'elles soient. Et une des raisons, d'ailleurs, il faut le rappeler, c'était l'idée de dire, attention, si on institue les couples de même sexe, si un jour arrive au pouvoir un pouvoir homophobe, bon, il aura des listes d'homosexuels. Enfin, vous voyez, on est dans un autre monde hein, à l'époque, et on a peur de ça. Et donc, il y avait une partie du mouvement qui souhaitait contourner la question du couple par ses pairs, P-A-I-R-E-S, asexués, on va dire, ou asexuels. Et puis, au contraire, d'autres, comme l'association AIDE, et d'autres qui, au contraire, disaient, mais non, ce qu'il faut, c'est faire changer la définition du couple en droit. Il faut absolument que le contrat d'union sociale, on parlait à ce moment-là, ça soit un contrat de couple et qu'on finisse par dire, effectivement, deux hommes, deux femmes qui s'aiment, qui vivent ensemble, peuvent être un couple. Le couple, c'est pas forcément un homme et une femme. Et moi, je me suis engagée très fortement sur ce sujet par un premier article. Puis ensuite, il se trouve que le hasard a voulu que je sois missionnée pour faire un rapport au gouvernement à la même époque sur couple, filiation, parenté. On m'avait demandé de ne pas traiter du contrat d'union sociale, puisqu'à l'époque, il y avait Jean-Pierre Michel, Patrick Bloch qui était missionné pour ça, mais dans lequel j'ai rédigé une partie sur le concubinage avec une proposition de façon de faire pour redéfinir le couple et intégrer des couples de même sexe. Et donc, ça a été tout un débat au moment du Pax, et ça, on l'a oublié, parce que aujourd'hui, quand on vous parle du Pax, on dit il y avait les pro-Pax et les anti-Pax. On voit les choses comme ça. Hein, il y avait les anti-Pax, et ils étaient là. Dieu sait, Madame Boutin, les PD au bûcher, etc. Et puis, progressivement, la gauche, qui avait été un peu hésitante, la gauche socialiste est de plus en plus engagée jusqu'au vote du Pax. Mais ce que moi, qui étais au plus près des choses, je voyais, c'est qu'il y avait quand même cette divergence entre les deux choix. Certes, on allait faire des droits pour les homosexuels, mais est-ce qu'on allait reconnaître ou pas des couples? Est-ce qu'on allait changer la définition du couple en droit? Et là, il y a une chose que je peux bien vous dire maintenant, que du temps a passé. C'est qu'au plus haut niveau de responsabilité, à l'intérieur du Parti Socialiste, il y avait un désaccord. Je ne suis pas au Parti Socialiste, mais je les voyais agir. Et en particulier, deux figures importantes, la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou, n'était pas favorable à ce qu'on change la définition du couple. Et donc, elle était plutôt favorable à une voie, les amis, les frères et sœurs, etc. Et Robert Badinter, de l'autre côté, avec qui j'avais eu une longue conversation, était convaincu, comme moi, il ne m'a pas suivi, hein, il était convaincu lui aussi, je devrais dire plutôt, que le moment, la tâche de l'heure, c'était de changer la définition du couple en droit. Et il avait fait un très bel article qui s'appelait « Les silences du Pax », et dans lequel il disait « Les homosexuels doivent entrer dans le droit par la grande porte du code civil ». Et donc on s'est battu ensemble, si je peux dire. Il a convaincu Jean-Pierre Michel et Patrick Bloch de cette importance de faire ce changement de la définition du couple. Mais jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas comment ça allait tourner. Donc ce qu'a fait Badinter, c'est qu'il a introduit un amendement sur le concubinage. Donc la loi, c'est devenu une loi sur le Pax et le concubinage. Plein de gens n'ont pas compris qu'est-ce que ça venait faire là. Et simplement pour assurer par cet amendement que on pouvait redéfinir le couple. L'amendement sur le concubinage redéfinissait, nommait les couples de même sexe ou de sexe différent. Et donc cet amendement était fait pour ça. Ce qui fait que certains n'ont rien compris à cet enjeu. Hein. Jusqu'à la dernière minute, Elisabeth Guigou disait « deux amis, deux collègues peuvent faire un Pax ». Et de l'autre, Badinter disait « deux concubins hommes, c'est un couple ». Donc, vous voyez, on discutait du droit et tout le monde ne comprenait pas, mais voilà, c'est la vie, c'est pas grave. Mais il a fallu finalement un avis du Conseil constitutionnel après le vote du Pax pour clarifier qu'effectivement, les Pax étaient faits pour des couples. Mais ça s'était resté incertain jusqu'à la dernière minute. Et il y avait quelqu'un qui n'avait pas du tout manqué de comprendre les débats. C'est, je veux dire, le plus grand adversaire du Pax, c'était le représentant de l'Église de France qui avait été missionné pour le Pax, Tony Anatrella, qui donc était le représentant de l'Église pour le Pax, qui avait écrit un article virulent contre toute idée de reconnaître des couples homosexuels. Je me souviens toujours de cet article dans Le Monde qui s'appelait « À propos d'une folie » et dans lequel il parlait de cet amendement sur le concubinage que beaucoup de gens avaient pris avec un certain mépris en disant « c'est le degré zéro de la reconnaissance ». Didier Ribon disait ça, « c'est le degré zéro de la reconnaissance ». Alors, et lui, le vrai adversaire ne s'était pas trompé. Il avait dit « cet amendement est pire que le Pax ». C'est Tony Anatrella qui parle, hein, l'opposant. Parce qu'il laisserait croire qu'une relation homosexuelle est la même chose qu'un couple. Vous voyez, il avait bien compris l'enjeu, lui. C'était effectivement d'assurer l'identité, l'égalité. Nous sommes tous des couples. Et pour nous, évidemment, on ne pouvait pas trouver un plus grand satisfecit, on va dire, de ce qu'on faisait. Hein. Et d'abord, ce qu'avait fait... Moi, j'avais participé. C'est Badinter, c'est Jean-Pierre Michel, c'est Patrick Bloch qui l'ont obtenu. Mais ce qui a été fait, vous voyez, qui était le plus important du point de vue juridique, n'était pas perçu par l'opinion. Et ça, c'est des choses qui sont pas forcément faciles à expliquer. Vous pouvez vous faire attaquer en disant « Oh là là, elle s'occupait que du concubinage, elle sait pas... » Au moment où vous faites les choses qui, pour vous, sont les plus décisives du point de vue des droits et du changement, voyez, une définition pluriséculaire du couple a été remise en cause là par un amendement que beaucoup de gens ont méprisé.
On a le sentiment que c'est le prélude au débat autrement houleux lors du mariage pour tous.
Voilà. Alors là, j'ai pas eu beaucoup de soucis autour de la question du Pax. Par contre, sur le mariage, là, ça a été plus compliqué pour moi parce que, effectivement, tenant mon rôle de sociologue du droit et des institutions, quand les débats sur le mariage ont commencé à ce moment-là, hein, ils se sont vraiment ouverts, on peut dire, à partir de l'année 1997-98, au moment où chacun disait c'est pas le moment, c'est pas le sujet. Mais pour plus tard, on commence à en discuter. Mes amis de Aide étaient favorables à l'idée d'un mariage de même sexe. Et moi, j'étais dans une situation très difficile parce que j'étais à la fois convaincue qu'il fallait une union officielle en mairie avec tous les droits des mariés. J'étais convaincue de cela, mais en même temps, je disais ça peut pas être un mariage. Pourquoi je disais ça? C'est pas parce que j'étais contre les droits des homosexuels, j'étais pour. C'était tout simplement parce que le mariage, ça avait une définition au point de vue institutionnel. Et j'avais toujours appris de mon maître Jean Carbonnier que le cœur du mariage, ce n'est pas le couple, c'est la présomption de paternité. Et donc, je disais, mais qu'est-ce qu'une présomption de paternité peut vouloir dire dans une relation entre deux femmes ou entre deux hommes? Donc, inventons une nouvelle institution, une union civile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'une présomption de paternité? Ou alors, les mots n'ont plus de sens. Donc, j'ai posé cette question. J'ai posé également une autre question encore plus difficile à poser, parce que j'étais favorable à ce que on ouvre aussi la discussion sur les familles homoparentales. Mais, par exemple, remettre en cause le système de parenté qui avait toujours été mixte, frères et sœurs, père et mère, etc. Pourquoi mixte? Ça nous rapproche de ce que j'ai dit à propos de l'apport de l'anthropologie. Parce que justement, il n'y a pas d'égalité naturelle entre les femmes qui accouchent et les hommes qui n'accouchent pas. C'est même pour faire une égale implication des deux sexes dans les rapports aux enfants, à la filiation, il faut des institutions. Et donc, est-ce que une orientation sexuelle vous dispensait, vous pouvez dispenser quiconque de la question, mais comment on va assurer une pensée des rapports de sexe là-dedans, pas de sexualité de sexe. Donc c'est là où il y a quelquefois une difficulté, vous voyez. Je trouve normal, tout à fait normal, que le mouvement militant parle avec ces catégories-là, homosexuel, hétérosexuel. Voilà, c'est logique. Mais du point de vue de l'analyse qui était la mienne, il y avait bien sûr des sexualités, mais il y avait aussi un rapport à la distinction de sexe, à la distinction masculin-féminin. Et je disais, ça, c'est pas un problème d'hétéro. C'est un problème qu'on a tous. On est tous hommes et femmes. On a tous à rendre compte de ça. Alors, ça a été évidemment des ennuis. Parce que, moi, j'ai dit, donc, les homosexuels sont dans la différence des sexes. J'ai eu cette formule. J'ai dit, ils participent de la différence des sexes. J'ai même eu des débats avec Anna Trella assez violents là-dessus. Il lui disait, les homosexuels ne participent pas, n'atteignent pas la différence des sexes. Et moi, je disais le contraire. Mais c'était des débats qui étaient presque impossibles, inaudibles en dehors de nous. Et donc, s'est entamé à ce moment-là tout un débat. Il y a eu un débat, si vous voulez, assez virulent du point de vue militant. Il y en a qui se sont saisis de ces difficultés pour dire « Ah là là, Terry, est-ce qu'elle serait pas réac ?» etc. Bon, évidemment, Terry veut fermer la porte de la famille aux homosexuels, on a entendu ça. Bon, et au moment même où, en fait, moi j'ai eu la chance d'entamer, dans l'école des hautes études, une élaboration, on va dire, intellectuelle, assez formidable, avec des gens comme Yann Thomas, par exemple, un grand historien du droit, qui, eux, comprenaient l'enjeu institutionnel, qui comprenaient qu'on avait une question qui était que nos institutions, notre institution du mariage, notre institution de la filiation, ne pouvaient pas, on ne pouvait pas juste dire on va les ouvrir aux homosexuels sans se poser la question de comment on allait faire, voyez. Mais... Et donc, tout simplement, ce qu'on a compris, on a eu tout un ensemble de débats, je ne vais pas vous les raconter là, mais ce que j'ai compris grâce à ces débats avec des gens comme Martine Gross, qui était à l'époque la présidente de la première grande association de familles homoparentales, à l'association des parents gays et lesbiens, qui m'a téléphoné, qui est venue me voir, qui a voulu qu'on discute. Les discussions que j'ai eues avec Yann Thomas, qui disait, mais enfin, on ne peut pas décider qu'il y a des enfants qui seraient à part des autres, qui ne seraient pas dans le même système de parenté que les autres. Agnès Fine aussi, qui travaillait à ce moment-là sur l'adoption. Et on a compris une chose, au fond, qui maintenant me paraît évidente, mais qui à l'époque était très difficile à comprendre. C'est que tout le monde avait les yeux fixés sur le mariage de même sexe, ou sur l'homoparentalité, sur les homosexuels, on va dire. Et nous, ce qu'on a compris, c'est que ce qu'il fallait faire, c'était se renverser et prendre les revendications de couples de même sexe pour le mariage ou d'homoparentalité pour la filiation, de les prendre comme des révélateurs de quelque chose qui n'allait pas dans notre droit commun, dans notre façon habituelle de penser le mariage. Et donc, ou de notre façon habituelle de penser la filiation. Et on s'est dit, mais au fond, si on veut vraiment trouver des solutions qui soient vraiment communes pour tous, qui ne séparent plus selon l'orientation sexuelle, qui assurent une vraie égalité, sans déni le moins du monde, qu'on est des hommes et des femmes, qu'il y a des distinctions masculins-féminins, qu'on en a besoin pour organiser ce que la nature n'organise pas, eh bien, il faut être capable d'un retour critique sur nous-mêmes. Alors ce retour critique, d'abord, j'ai été amenée à le faire sur le mariage. Et je vais vous dire, c'est pas facile, c'est pas facile de changer. Mais c'est pas facile de changer, parce que j'ai commencé par dire, ça peut pas être le mariage, puisque le mariage, c'est la présomption de paternité. Et plus j'ai réfléchi, plus j'ai lu, plus j'ai discuté, et plus je me suis aperçue que je restais enfermée sur une analyse qu'on m'avait transmise, en particulier, le plus grand juriste au droit de la famille m'avait transmise, le président de mon jury m'avait transmise, Jean Carbonnier lui-même. Mais qu'au fond, j'avais tous les moyens de contester cette idée. Et comment j'avais ces moyens? Grâce à Cavell. Alors, ça peut paraître bizarre. J'avais bien travaillé avec Cavell, l'émergence du démariage. Le mariage n'est plus ce qu'il était. Se marier, se démarier, c'est devenu une question de conscience personnelle. Le couple n'est plus ce qu'il était, puisque c'est plus le couple n'est plus ce qui est fait pour faire des enfants, mais c'est ce qui est fait pour assurer, je dis, la conversation des sexes dans un couple duo. C'est plus comment avec deux ne faire qu'un, c'est comment avec deux voix différentes faire deux. Et finalement, ce couple duo, eh bien, c'est à la fois un modèle, on va dire, pour des couples hétérosexuels comme pour des couples homosexuels. C'est bien, ils se retrouvaient autour de cette idée. Et au fond, je me suis rendu compte que je répétais que le cœur du mariage, ça n'était pas le couple, c'était la présomption de paternité, alors que j'avais tous les moyens de dire, ça n'est plus vrai. Ça n'est plus vrai depuis que justement le temps du démariage a commencé, que la filiation s'est autonomisée du mariage, elle s'est refondée sur elle-même. Le cœur du mariage aujourd'hui, c'est le couple. C'est devenu le couple. On se marie pour instituer son couple. Et d'ailleurs, son couple, on va pouvoir le conserver ou le séparer volontairement, indépendamment de sa filiation. Et donc, j'ai été obligée de me dire, tu avais des raisons de poser la question de l'institution. Mais en fait, si tu travailles sur l'institution matrimoniale, et le travail même que tu as fait doit t'amener à dire que le mariage a suffisamment changé aujourd'hui, il est devenu l'institution d'un lien de couple, il est prêt, en quelque sorte, à s'ouvrir à être une institution qui accueille aussi bien des couples de même sexe, des couples d'hommes, des couples de femmes, que des couples d'hommes et de femmes. Et donc, j'ai dû faire ce changement, pas très facile, de me dire, mais je vais avoir l'air de reconnaître des torts. Elle nous rejoint, alors que j'avais posé des questions qui n'avaient pas été comprises. Donc c'est toujours un peu mortifiant que les gens ne vous reconnaissent pas, que c'est vous qui avez progressé dans votre réflexion sur un sujet qu'ils n'avaient même pas voulu entendre, etc. Mais vous savez, je pense qu'il n'y a rien de pire que de se fermer à un changement sous prétexte du « qu'en dira-t-on ? » Je me souviendrai toujours, j'ai été marcher dans ma campagne, il y a très longtemps, hein, c'était en 2003, je pense. À l'époque, j'ai fait ce changement, donc je me suis dit, je vais défendre maintenant le couple de même sexe et le mariage de même sexe. Parce que, j'ai trouvé l'argument, le mariage a déjà changé, et donc il peut attaquer. Et je me suis dit, je me suis souvenu de mon père, qui à propos de quelqu'un qui n'avait pas voulu changer, m'avait dit, ce qu'il a perdu, c'est l'orgueil. Et je me suis dit, voilà une leçon qu'il faut que je sois capable d'entendre maintenant. Il ne faut pas que l'orgueil de toujours avoir raison m'empêche de changer. Grâce à ça, j'ai fait le pas, j'ai changé, et je me suis trouvé finalement très bien armé par la suite, justement pour argumenter au moment du mariage pour tous, parce que je l'ai répété à ce moment-là, j'ai pu expliquer, voilà, pourquoi, sans la moindre homophobie, vous voyez ce que je veux dire, sans vouloir priver du moindre droit les couples de même sexe, pourquoi j'avais pu à un moment être opposée, comme beaucoup de juristes en fait, et comment je pouvais convaincre de changer. Et donc c'est devenu, ce qui avait été une difficulté est devenu finalement pour moi un atout, mais après un passage qui n'a pas été facile.
Alors à quoi aboutit justement ce changement de point de vue, cette nouvelle manière de voir, de considérer le mariage?
Le couple, le mariage, mais si vous voulez, c'est là où ça m'a donné, donc ça m'a donné un atout, c'est que je pouvais expliquer très bien qu'on n'était pas du tout dans la situation qui était souvent décrite, que pour faire l'égalité entre les couples de sexes différents, les couples de même sexe, on devait oublier la distinction masculin-féminin, on devait oublier le genre, etc. La grande critique à l'époque qui était portée par les opposants, c'était, mais si vous faites le mariage pour tous, alors il y a deux hommes, il y a deux femmes, il y a un homme et une femme, alors il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, quoi. Et c'est vrai que parmi les favorables au mariage pour tous, il y avait beaucoup qui disaient, mais effectivement, le genre, finalement, ça appartient au passé, il faut faire un droit des personnes asexuées, on va dire, parent 1, parent 2, etc. Et moi, je me suis trouvé finalement très à l'aise, et moi et beaucoup d'autres, hein, j'ai jamais travaillé seul, toujours avec d'autres, pour dire, mais pas du tout, votre crainte n'est pas fondée. Et je me souviendrai toujours qu'on a organisé à l'École des hautes études en janvier 2013, au lendemain d'une énorme manifestation de la Manif pour tous, qui criait justement face à la suppression des distinctions masculin-féminin, on a fait un colloque avec l'Union nationale des associations familiales, qui n'est pas n'importe quoi, le représentant officiel des familles devant les pouvoirs publics, qui s'était opposé à ce mariage en disant « ce sera la fin de la distinction masculin-féminin, il n'y aura plus de différence des sexes ». Et donc, nous les avons invités à l'École des hautes études à un colloque très argumenté, très calme, pas du tout énervé, qui a montré que, justement, les sciences sociales peuvent apporter leur pierre à la discussion en montrant qu'il n'y aurait aucune espèce d'effacement. On aurait des couples d'hommes, des couples de femmes et des couples d'un homme et une femme. On aurait des pères, on aurait des mères, on aurait des couples de deux mères, des couples de deux pères, des couples d'un père et une mère. Mais on n'allait pas vers une sorte d'indifférenciation comme le prétendaient les opposants et quelquefois des partisans qui n'arrivaient pas à trouver d'autres façons d'exprimer la volonté de rassembler tout le monde. Et donc finalement, je vous disais, au départ, l'analyse sociologique et le discours militant qui lui procède par catégorie, les homos, les hétéros, alors que c'est pas des catégories que j'utilise facilement ou seulement pour faire l'analyse des distinctions de genre, plutôt masculin, féminin, etc. Finalement, se sont retrouvés au bout du compte et ça a donné un investissement au moment justement des grands débats du mariage pour tous. Ce qui avait été un moment difficile et une faiblesse, c'est trouver une force pour contrer des arguments erronés des opposants.
Irène Théry, merci beaucoup, on se revoit demain.
Merci, à demain Alexandre.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alexandre Breton avec Irène Théry. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Claude Niort, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.